Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Rollin pour commencer l'émission spectaculaire. Aujourd'hui, mercredi, je mange toujours les dates, mercredi 3 juillet 2013. Il est 14h et quelques minutes, 4 minutes je crois, donc sur Radio Canu. Vous pouvez nous écouter sur Radio Canu toutaccroché.org ou bien sur la bande FM lyonnaise au 102.2. Donc nous avons un tout petit peu de retard, on commence généralement à 14h pour terminer à 15h. Ensuite c'est le blues des Canu qui commence. Bref, spectaculaire aujourd'hui va être proprement spectaculaire. Nous recevons des invités, je n'ai pas encore branché les micros donc ils ne peuvent pas parler. Nous recevons Jean-Baptiste Mouret, chanteur au sol. Nous allons indiquer ce qu'est ce sol, je crois que c'est l'appellation de Jean-Paul Fouché-Court. Il va nous parler de l'opéra qui a lieu ces jours-ci, La Flûte Enchantée, qui est déjà donnée depuis le lundi 24 juin jusqu'au lundi 8 juillet, avec une date spéciale, celle du samedi 6. Nous avons d'ailleurs un deuxième invité qui va nous parler de cette date du samedi 6, une opération un peu particulière, un peu spectaculaire je pourrais dire. Nous en avons déjà parlé lors des émissions précédentes, il s'agit de diffuser La Flûte Enchantée sur écran géant en région, de manière totalement gratuite. La seule chose importante, c'est les places. Y aura-t-il assez de places à Cré dans la Drôme ou sur la place des Terreaux, je crois que c'est également diffusé, ou bien à Valence, y aura-t-il assez de places, ou bien à l'Arbrel, je ne sais plus encore où c'est. Bref, nous allons parler de cet opéra La Flûte Enchantée avec Jean-Baptiste Mouret, de différentes choses. Pour l'instant, on va encore laisser un peu générique et puis je vais lancer la vidéo. Alors, je vais lancer le son de la vidéo qu'on peut trouver sur le site de l'opéra qui, je trouve, donne vraiment envie d'aller assister à cet opéra La Flûte Enchantée. Il y a d'ailleurs encore plusieurs dates qui restent. Donc, écoutons cette vidéo de l'opéra et puis La Flûte Enchantée de Mozart. Et puis ensuite, nous allons bavarder avec nos invités jusqu'à 15h sur Radio Canu dans l'émission spectaculaire. C'est impressionnant, nous étions en direct de l'Opéra, disons en direct, pas exactement, mais nous étions à l'Opéra de Lyon. Enfin disons, c'est un enregistrement de l'Opéra de Lyon qui m'a été remis, et cet enregistrement nous permettait d'écouter... Je confonds tout, j'étais sur le site de l'Opéra, et nous écoutions donc la vidéo qui présente cette flûte enchantée, qui a déjà commencé le lundi 24 juin, qui se termine le lundi 8 juillet, c'est à 20h en soirée, c'est à 16h les dimanches, il reste encore plusieurs dates. Hein. J'aperçois mercredi 3 juillet aujourd'hui, jeudi 4, samedi 6, une date très particulière, dimanche 7 donc à 16h, lundi 8, je me trompe complètement, j'aperçois même le mardi 9 à 20h, c'est très bien, il y a encore donc plusieurs dates. Et donc, pour parler de cet opéra, promis, j'arrête de parler, je cède la parole à Jean-Baptiste Mouret. Bonjour.
Bonjour. Merci
d'accueillir. Ah, voilà. Là, on vous entend mieux. Excusez-moi. Jean-Baptiste Mouret, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes chanteur au sol.
C'est ça.
L'appellation, je crois, de Jean-Paul Fouché-Court. C'est le studio...
De l'Opéra de Lyon.
Alors, je me suis dit que pour présenter cet opéra, ce serait sûrement très bien, et bien que vous nous parliez de vous-même, certes, mais que vous parliez donc également de ces rôles que vous interprétez, et puis peut-être plus généralement de cette belle aventure, puisque le sol est très présent, les artistes sont tous issus de ce studio de l'Opéra de Lyon. Donc je vous en prie, je vous laisse la parole. Vous nous parlez tout d'abord peut-être de votre jeunesse bretonne. Vous êtes Vannetais, je crois, c'est ça?
C'est ça, je suis adopté de Vannes, puisque en fait je suis né à Compiègne, mais après je suis parti avec mes parents en Bretagne, et c'est vrai que c'est là que j'ai fait mon éducation musicale au sein de l'École Nationale de Musique de Vannes, où j'ai appris le piano, là-bas. Et puis ensuite, j'ai chanté avec la Maîtrise de Bretagne pendant 6 ans. Puis après cela, je suis parti à Angers pendant 1 an, étudier au conservatoire. Et j'ai rencontré un très bon professeur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a conseillé de poursuivre mes études de chant en Angleterre, à la Guildhall School of Music and Drama.
Quel est votre registre vocal?
Je suis baryton basse.
Assez grave, donc.
C'est assez grave, tout à fait.
Baryton basse. Je vous interromps dans ce parcours. Qu'est-ce qui vous a ensuite amené à Lyon? Donc là, vous êtes en Angleterre, dans les années 2000, c'est ça?
C'est ça. Les 5 années précédentes, j'ai étudié pendant 4 ans, et cette année, j'étais encore établi en Angleterre. Et mon choix est de ne plus rester en Angleterre pour plusieurs raisons que peut-être on envisagera plus tard.
La météo, la bière, c'est ça, le football.
Il y en a plein.
Il y en a beaucoup.
Toujours est-il que c'est vrai qu'en juillet dernier, j'ai passé une audition, comme beaucoup de gens le font pour avoir du travail dans le monde de l'opéra, à l'Opéra de Lyon pour des projets qu'ils avaient cette année. Et j'ai eu la chance d'être retenu pour 2 projets, l'Empereur d'Atlantis et la Flûte Enchantée. Et me voilà ici en train de vous parler.
L'Empereur d'Atlantis, c'est une production de la saison précédente, je crois, la saison 2011-12, c'est ça?
C'était cette année, c'était en novembre, on a fait la première à Valence, et on a une reprise au Théâtre de la Croix-Rousse en février 2013.
En février 2013, eh bien, ouais. J'ai sauté une année, j'ai manqué ça. C'était, vous l'avez bien indiqué, ce n'était pas à l'Opéra de Lyon, vous chantiez
Oui. Ça correspondait bien au théâtre de la Croix-Rousse, qui était un théâtre plus petit que celui de l'Opéra, où le directeur Jean de la Cornerie aime les projets un peu atypiques, soit qui correspondent à du musical de tradition anglaise ou américaine, ou alors des projets plus petits, puisque c'est vrai que la scène de l'Opéra de Lyon est une grande scène avec un grand orchestre, qu'on peut faire des projets qui sont vraiment de taille. Et la collaboration avec le Théâtre de la Croix-Rousse est intéressante parce que ça leur permet de produire des plus petits projets, mais vraiment de qualité. C'était très bien d'être là-bas.
Et donc, là nous sommes au mois de... On est rendu au quoi de... Je pense au mois avril peut-être 2013, et c'est là que commence le travail que vous avez réalisé, enfin que vous avez fait sur La Flûte Enchantée. Disons le travail, bien entendu ça a sûrement commencé avant, mais enfin je sais pas pourquoi, je cherche à trouver des dates. Mais
oui.
C'est là que vous commencez donc cette... Oui, vous parliez sur le site internet, vous évoquiez les journées portes ouvertes.
C'est ça, les journées portes ouvertes avec lesquelles on a vraiment commencé la session, les répétitions de La Flûte Enchantée. Nous sommes arrivés, je crois, le 10 mai, et on a commencé avec un gros délire où il fallait qu'on improvise plusieurs actions auxquelles on n'avait aucune idée. On s'est préparé un peu, assez vite, on n'a pas vraiment d'idée la veille de ce qu'on devait faire. Et puis finalement, grosse surprise, on a vraiment beaucoup apprécié ce qu'on a fait. Je pense que les gens aussi qui étaient là ont vu que on était disponible, on était à 100%. Donc c'était une très bonne expérience. Puis ça permet de créer un lien plus proche avec les chanteurs qu'on ne connaît pas, avec lesquels on va travailler. Et c'est important d'avoir autre chose que juste un lien, de créer un lien affectif en tout cas, parce que quand on voit les gens se mettre en danger, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de mortel dans ce qu'on fait, c'est-à-dire prendre l'initiative de faire quelque chose qu'on ne connaît pas à l'avance devant 300 personnes, on est tous pareils, on est tous petits, donc on aime voir ça chez nos collègues. C'est bien.
Donc, nous parlons de la Flûte Enchantée, un opéra de Mozart qui clôt la saison 2012-2013 de l'Opéra de Lyon. Je l'indiquais, c'est donc encore en cours. Est-ce que on va essayer de rentrer davantage dans cet opéra, peut-être qu'on pourrait aborder l'histoire et puis surtout votre rôle. Mais moi, il me semble qu'il serait peut-être encore intéressant de dire deux, trois mots sur vous l'avez indiqué. Vous avez dit nous, vous avez dit on. On était une bonne équipe. Vous avez parlé d'un délire. Est-ce que vous pourriez donc donner des précisions? C'est un petit peu, moi, il me semble, ça revient à donc définir ce studio de l'Opéra de Lyon. Est-ce que vous pourriez bien nous indiquer peut-être quelques noms qui sont ces partenaires, qui sont ces collaborateurs, qui est cette équipe et puis donc comment ce travail s'est passé? Est-ce que vous auriez même des anecdotes à nous raconter sur ce travail, parce qu'ensuite on va parler donc plus précisément de cet opéra, de cette Flûte Enchantée, mais tout d'abord peut-être le travail qui a été fait en amont avec des artistes jeunes. Mm-hmm. J'ai vu l'opéra, je tiens seulement à dire, peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise, mais moi j'ai trouvé ceci absolument brillant. Ça aurait été d'autres noms distribués. Alors après, il est vrai que je ne suis peut-être pas non plus un énorme connaisseur, mais tout de même, j'ai été assez impressionné. Je crois qu'on pouvait l'écouter sur la vidéo de l'Opéra de Lyon. La Reine de la Nuit, ça n'est pas du tout une première venue. Il y a quand même vraiment du talent, vraiment du potentiel. Donc, qui sont ces personnes du studio de l'Opéra de Lyon? Est-ce que vous pourriez nous préciser, donner quelques...
Je vous remercie déjà pour le compliment. Oh. Sur la production de La Flûte Enchantée, donc nous sommes tous des jeunes chanteurs qui avons terminé nos études ou qui sommes en cours de les terminer. Alors il y a par exemple Sabine Devielle, dont on parle beaucoup, qui fait la Reine de la Nuit. Il y a Guillaume Andrieux qui chante Papageno. Il y a Philippe Spiegel qui chante aussi Papageno, puisque la production est en double cast, donc ils alternent. Il y a aussi Mauro Peter et Jan Petreka qui font les Tamino.
Nous l'avons indiqué sur le site parce que c'est très intéressant. Ça permet de faire, je suppose que c'est la raison, ça permet de faire beaucoup de dates. Il y a presque une représentation chaque soir. Hein.
C'est un rythme assez soutenu. Les personnes qui font les premiers rôles, c'est-à-dire un Tamino ou un Pamina, alternent avec un rôle de second plan. Sur le soir qui suit. Donc ça leur permet de se reposer et de laisser la chance à un autre chanteur le soir d'après.
Alors que vous, c'est tous les soirs sur scène.
Moi, c'est tous les soirs. C'est-à-dire que moi, je chante deux petits rôles, donc ça aurait été. C'est-à-dire, c'est pas aussi exigeant physiquement et mentalement de chanter ce que je fais que de chanter Tamino. Donc c'est vrai que je chante tous les soirs, mais pour ce qui est de la Reine de la Nuit, c'est-à-dire Sabine Devielle, de Zarastro, Johanna Sterman. Et puis aussi d'une quatrième personne qui chante la troisième dame, c'est-à-dire Dorothea Spiegel. C'est plus des contraintes un peu de recrutement. C'est pas évident de trouver quelqu'un comme Sabine Devielle en double cast. C'est pas évident de trouver quelqu'un comme Johannes qui chante Zarastro un double. C'est-à-dire il faut que ce soit un peu égal et c'est pas toujours évident, donc pour eux c'est eux tous les soirs.
C'est une proposition que je vous fais, mais en fait cette proposition je vais tout de suite y répondre. Nous allons vous entendre, vous êtes sur le site de l'Opéra, on va vous entendre qualifier cette mise en scène. Je souhaitais l'évoquer un peu plus tard, mais peut-être qu'on peut le faire tout de suite, parce que en fait voilà, secret, je vais également chercher à mettre votre rôle, l'un de vos beaux passages chantés, vraiment un très beau passage qu'on évoquera, un passage, vous me le disiez à l'instant, une sorte de un petit peu une copie faite sur Bach, mais on peut avouer, enfin une copie hommage, hein, il n'est pas question de plagiat. Donc on va vous écouter qualifier la mise en scène, parce que il faut quand même effectivement en dire deux mots. Promis, on évoquera ensuite l'histoire. On a quand même déjà commencé à donner des noms. On a parlé de Tamino, de Pamina, mais on va vous écouter donc parler de cette mise en scène qui est, que vous qualifiez de très étonnante, puisque d'ailleurs c'est une question qui est posée sur le site de l'Opéra de Lyon, l'adresse sera indiquée sur le blog. On vous demande qu'est-ce qui est le plus étonnant. Donc on vous entend parler de cette mise en scène, très court, 30 secondes, et je vous demanderai ensuite de réagir dessus.
Sur scène. C'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué en tant que chanteur, d'être filmé et puis d'avoir son image transmise en direct. Donc voilà, il a fallu s'habituer à ça. C'est pas évident d'avoir un retour, puisque quand on est sur scène, on voit pas l'écran. C'est le public qui le voit, mais nous on le voit pas. Donc il faut faire confiance au metteur en scène et à Luc et à Pierrick qui voient ce qu'on fait, et il faut vraiment leur faire confiance. Donc ça, c'était étonnant et difficile en même temps.
Étonnant et difficile en même temps. Alors, zut, j'ai mangé les premiers mots. On vous entendait donc qualifier cette mise en scène. Est-ce que vous pourriez donc nous indiquer de quoi il est question ? C'est un travail réalisé par Pierrick Sorin. C'est vrai ça. Que c'est assez étrange, ce dispositif. Vous êtes donc sur scène, et puis il y a des moments où vous êtes filmé par des personnes qui sont également sur scène, et tout cela est projeté sur un écran géant. Vous indiquez à l'instant que c'est très étrange de se voir.
Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué en tant que chanteur, d'être filmé sur un théâtre, enfin dans un théâtre pendant une production. Et le travail de Pierrick Sorin, le metteur en scène, consiste à nous filmer sur un fond bleu, comme ça a lieu pour la météo, et puis ensuite de diffuser une image, un autre fond, voilà, quelque chose qui est surprenant, qui est enfantin, qui est très créatif, qui stimule notre imagination et qui propose quelque chose, une lecture de la flûte enchantée à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, et qui nous fait rire, qui nous fait sourire. Enfin, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup son imaginaire, voilà, c'est en effet quelque chose auquel on n'a pas l'habitude et qui était un peu déstabilisant pendant les répétitions, parce que le travail de répétition, nous sommes pendant 3 semaines dans un studio dans l'opéra où on n'avait pas les contraintes techniques. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas le résultat final. Donc on a dû imaginer et essayer de voir ce qu'il fallait faire sans vraiment tout le matériel. Et ce n'était que les 2 dernières semaines de répétition où nous étions dans la grande salle de l'opéra qu'on a pu vraiment réaliser de quoi il s'agissait. Et comme on est filmé, je pense que des acteurs qui font un film, ils tournent une scène, ils vont... ça coupe et puis après ils peuvent tout de suite aller voir comment ils étaient. Et ben nous c'était pas du tout comme ça, puisque on n'était pas filmé, enfin on n'était pas enregistré, on était juste rediffusé en direct et on n'avait pas vraiment de retour. Donc c'était un peu déstabilisant. Il faut savoir faire confiance aux metteurs en scène et aux gens qui nous dirigent pour savoir de quoi on a l'air, parce que je pense que notre oreille peut nous dire comment est-ce qu'on sonne, mais nos yeux ne nous disent pas de quoi on a l'air.
Eh bien, vous aviez un très bel air, et c'est toujours difficile à la radio de parler d'images. Je vous remercie d'avoir fait quand même cet exercice. J'invite les auditeurs à se rendre sur le site de l'Opéra, puisque la vidéo que nous écoutions en début d'émission, disons la vidéo, le son que nous écoutions en début d'émission était tiré d'une vidéo qui est disponible sur le site de l'Opéra de Lyon. L'adresse est déjà sur le blog de Spectaculaire. Vous pourrez la trouver à nouveau pour l'émission d'aujourd'hui. Et donc, cette vidéo montre un très beau passage qui, je crois, pas le meilleur passage, parce que tous sont toujours très bons, mais celui-ci est assez net, très représentatif. On voit la tête de c'est Monostatos, je crois, qui va d'un bras à un autre. Il est en train de danser sur l'air des carillons de Papageno. Et il me semble que là, on comprend bien ce que vous indiquiez, ce fond bleu qui est projeté. D'ailleurs, les spectateurs peuvent le voir. Ils peuvent apercevoir qu'il y a des personnages qui sont présents sur scène. D'ailleurs, à ce moment-là, ils sont également en tunique bleue, il me semble, et ils retirent forcément une manche pour faire apparaître un bras. Et donc, ouais. On voit ce jeu. C'est très difficile vraiment d'en parler. Je vous invite donc à bien vous rendre sur le site pour constater ça et pour voir à quel point, transition, promis, on va vous écouter dans quelques instants, mais transition, il me semble que toute cette mise en scène, tous ces effets vidéo, toutes ces différentes choses, ça confère une certaine fantaisie au spectacle, c'est indéniable, mais une sorte de poésie également, et poésie qui, j'ai trouvé, qui me semble correspondre au livret. Ce livret d'opéra, c'est une histoire quand même qui est assez pleine de fantaisie, certes. Moi, je reconnais quand, avec des camarades, j'apprécie. Enfin, moi, j'avais goût à traiter ce livret d'un peu tordu. Moi, il me semble toutes ces affaires de ce jeune premier Pamino. Voilà. En gros, je peux tenter de parler de cette histoire. Ça va être un peu compliqué. Donc, Pamino, qui est d'ailleurs un jeune premier, qui est Tamino. Je confonds avec Pamina, ouais, exactement.
Moi, tout le temps. Ouais, vous n'êtes pas le seul.
Tamino, ce jeune premier, qui est d'ailleurs jeune premier assez terrible. Un prince, certes, mais la première scène, il tombe dans les pommes.
Oui.
Alors, ça la fout quand même.
Il tombe
mal.
Dans les pommes.
Il tombe dans les pommes. Et puis ensuite, donc,
il n'est pas le seul. Parce que Pamina aussi tombe dans les pommes. Et il y a un lien. Il y a un lien à voir. C'est pas par hasard.
Je vous en prie, établissez-le. Parce que l'histoire, je la résumerai de manière très, très rapide avec ce qu'on appelle le schéma des contes. Vous verrez, ce sera très facile à faire. Je vous en prie, ce lien. Alors, donc, Jean-Baptiste Mouret, vous qui chantez des rôles dans cet opéra, pourriez-vous. Je vous en prie, dites-nous ce que c'est. Nous crevons d'impatience.
Vous parliez de Tamino qui tombe dans les pommes, et c'est vrai que c'est important dans l'histoire que Tamino et Pamina, les deux personnages centraux, s'évanouissent, parce qu'ils vont tous les deux vivre une expérience initiatique. Et à travers Zarastro, à travers les épreuves qu'ils ont à subir. Et c'est-à-dire c'est comme s'ils renaissaient dans cette histoire. On connaît pas forcément leur passé, mais on sait qu'il y a un futur qui va arriver. Et le fait de s'évanouir, c'est comme une petite mort. Et voilà, les deux personnages principaux, en tout cas, vont vivre une deuxième vie à partir du moment où ils s'évanouissent.
C'est très clair comme ça, on comprend un petit peu mieux. Moi, je souhaitais résumer cette histoire en parlant de ce qu'on appelle le schéma narratif, ou je ne sais plus quel terme, morpholittérature, il me semble, le terme, c'est assez compliqué. C'est Vladimir Propp avec ses morphologies et structures d'un conte, je crois. Il y a le schéma avec le héros, la chose qu'il recherche, l'objet de sa recherche, les adjuvants, les opposants, et puis il y a éventuellement les rôles secondaires. Donc on pourrait dire le héros, c'est très clair, c'est donc Tamino avec un T, c'est vrai, je faisais la confusion tout à l'heure. L'objet de sa quête, de sa recherche, c'est Pamina, avec un P. D'ailleurs, les noms sont liés, vous avez indiqué à l'instant que leur évanouissement était lié, mais leurs noms sont également liés. Il y a ensuite, on peut parler bien du rôle secondaire Papageno, qui est, je sais pas comment le qualifier, le bouffon, c'est un adjuvant, il est censé aider Tamino, mais est-ce que Papageno l'aide vraiment? C'est pas très net. Papageno a lui-même sa compagne qu'il découvre pendant l'opéra, une certaine Papagena. Les noms sont très élaborés dans cet opéra. Et les méchants, alors les méchants, c'est là qu'il y a peut-être une fantaisie, ou même plus qu'une fantaisie, moi je qualifie, enfin je trouvais ceci un peu étrange, un peu bizarre. Les opposants, donc a priori ce serait Zarastro, avec
au début
voilà, et puis la Reine de la Nuit serait sa grande adjuvante, celle qui l'aide, celle qui l'envoie faire sa quête, elle envoie Tamino aller chercher sa fille Pamina, qui est kidnappée qui est détenue par Zarastro. Mais en fait on s'aperçoit que c'est plutôt la Reine de la Nuit qui est méchante. L'air que nous entendions tout à l'heure, l'air de la Reine de la Nuit, c'est un air qui n'est pas, le texte n'est pas très, comment le qualifier, c'est pas très gentil, puisqu'elle envoie sa fille assassiner Zarastro, un air guerrier, elle lui confie un poignard, et les vocalises sont sur Nimmermeer, si tu ne fais pas ceci, tu ne seras plus jamais ma fille, je ne te reconnaîtrai plus. Et puis, donc c'est plutôt Zarastro qui est lui le gentil, et deuxième dimension dans cet opéra, je ne sais pas si on va vraiment l'évoquer, il fait passer Tamino par différentes épreuves, une sorte d'initiation, et en fait si, la transition est toute trouvée, une initiation avec différentes personnes qui sont à ses ordres, qui sont sous sa coupe, c'est peut-être un peu négatif le terme, qui sont disons dans son empire, dans son monde, et parmi ces personnes se trouve notamment en allemand il est qualifié de Sprecher, je crois, un orateur ou un porte-parole, et puis il y a également, forcément, puisque il y a une sorte de conflit, il y a des personnes armées, il y a des gardes armés, je sais pas si vous voyez où je souhaite en venir en parlant de l'orateur et des gardes armés, ce sont précisément les deux rôles que vous incarnez. Est-ce que vous souhaitez maintenant nous en dire quelques mots, ou alors est-ce que nous pourrions, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi je pense à bien préparer ce duo que vous chantez, le duo des deux gardes armés, ça se trouve, c'est le final du deuxième acte. Est-ce que, avant que je le diffuse, peut-être pourriez-vous nous indiquer ce qu'il chante, et puis même pourriez-vous nous dire, vous évoquiez que c'est une sorte de, oui, de dommage. On évoquait, moi je parlais de beaucoup de fantaisie, mais il y a quand même un aspect très grave, il me semble très sérieux. Moi j'ai vraiment été très ému à l'écoute sur disque lorsque j'entendais ceci, et puis ensuite lors de l'opéra même, c'est un moment qui est vraiment très touchant.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ces gardes qui arrivent à la fin de l'opéra... chante un texte qui est assez ancien en fait, c'est apparemment une source plus ou moins vraie qu'aurait trouvé Mozart dans un livre du Moyen-Âge qui est consacré en fait à la maçonnerie, puisque Mozart lui-même était franc-maçon. Et ce texte en fait consacre les initiés qui ont vaincu les épreuves du feu et de l'eau, et ainsi que celle du silence, et leur ouvre les portes de la lumière, mais une certaine lumière. C'est pas la lumière qu'on voit du soleil, c'est la lumière de la sagesse. C'est la lumière de la beauté et de la force.
Écoutons ce texte en français avant de l'écouter chanter en allemand par vous-même, ainsi que par le deuxième garde d'armée. Vous avez son nom?
Alors, ça change. Ça un change, soir sur deux. Un soir sur deux, des fois, c'est Mauro Peter qui chante Tamino.
Qui chante également Tamino à premier rôle.
Et l'autre soir, c'est Jan Petrica.
Donc, voici le texte qui est chanté. Je pourrais le lire en allemand. Der Welcher van der Diese Strasse. Mais en fait, non, on va l'entendre chanter par vous avec un bien meilleur accent que le mien. Écoutons le texte en français. Celui qui voyage, vous en parliez, initiation. Épreuve accomplie ensuite. Celui qui voyage sur ce chemin semé d'obstacles deviendra pur par le feu, l'eau, l'air et la terre. S'il parvient à surmonter la peur de la mort, il s'élancera de la terre au ciel éclairé. Il sera alors capable de se consacrer totalement au mystère d'Isis. Nous écoutons ceci. Là, c'est bien un enregistrement qui m'a été remis par l'opéra. C'est bien vous que nous entendons chanter avec donc. Là, est-ce que vous reconnaîtrez quel Tamino, de quel Tamino il s'agit?
Donc sûrement, ils ont des voix bien spécifiques.
Donc c'est bien l'opéra de Lyon que nous entendons, qui est sur scène ces jours-ci. Si vous souhaitez l'écouter, non pas dans l'émission spectaculaire sur Radio Canut, ben je vous en prie, rendez-vous à l'opéra, ou alors samedi soir, soyez présents à Lyon ou en région. On va en indiquer quelques mots en deuxième partie. Nous écoutons pour l'instant ce très bel air qui est dans le final du deuxième acte, ce très bel air des deux gardes armés, cet extrait de La Flûte Enchantée, c'est un opéra de Mozart et c'est vraiment très beau.
Thank you.
Et voilà, Tamino arrive à ce moment. Nous entendions à l'instant une production, un enregistrement de l'Opéra de Lyon, La Flûte Enchantée, le final, disons un passage du final du deuxième acte, et c'était Jean-Baptiste Mouret à l'instant qui chantait.
Avec Yann Petrick.
Vous l'avez reconnu, bravo, alors que les qualités le son n'est pas très très bon dans notre studio. J'essaie d'être beaucoup plus clair, nous sommes toujours dans l'émission spectaculaire, il est 14h35, nous sommes toujours sur Radio Canu, radiocanu.org si vous souhaitez nous écouter sur internet, ou bien le 102.2 de la bande FM à Lyon, et nous parlons de cet opéra La Flûte Enchantée qui a lieu à Lyon ces jours-ci. Il y a encore plusieurs dates si vous souhaitez y assister, le mercredi 3 juillet, le jeudi 4, le samedi 6, c'est à 20h, dimanche 7 c'est à 16h, et lundi 8 et mardi 9 c'est à 20h toujours. La date du samedi 6 est très particulière, on va en reparler encore quelques instants. Jean-Baptiste Mouret, peut-être pourriez-vous, vous qui êtes chanteur dans cette production, c'est vous que nous écoutions à l'instant, vous étiez l'un des deux gardes armés qui chante ce très beau passage, vraiment vraiment très beau, j'insiste. Je ne sais pas si la diffusion rendait fidèlement ce que ça peut être, c'est très émouvant je trouve. Donc pourriez-vous, je ne sais pas, peut-être nous révéler sur la vidéo du site internet que ce que vous craigniez un petit peu avant que les représentations commencent, c'était votre entrée sur scène et votre sortie de scène. Est-ce que cela s'est donc bien passé, tout court avec les premières, et puis maintenant comment se passent ces représentations qui ont lieu? Je sais pas si elles sont comptées, c'est peut-être déjà la dixième qui a eu lieu.
Ce soir c'est la septième.
La septième, ouais. Ce soir.
Écoutez, pour l'instant tout s'est bien passé. Je vous remercie. C'est vrai que chaque fois, moi personnellement, chaque fois que je rentre sur scène, j'ai toujours peur d'oublier mon texte. Donc je passe en boucle mon texte dans la tête. Voilà, c'est mon stress. Il m'a jamais quitté. Et voilà. Il faut faire avec, mais pour l'instant tout s'est bien passé, et je pense que tout se passera bien, mais peut-être que justement d'avoir ce petit stress à chaque fois de se dire que je vais peut-être oublier quelque chose fait que ça se passe bien. Et je pense que c'est important d'être un peu stressé avant chaque représentation. Et puis concernant la sortie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important, je pense. Pour un spectateur, c'est de voir rentrer quelqu'un en scène et de le voir sortir. Il y a une façon de sortir, moi qui en tout cas me choque toujours quand je vais voir des spectacles, quand je vois des gens qui font pas attention à leur façon dont ils sortent, j'ai l'impression qu'ils ont loupé leur sortie. Et c'est tellement important. Enfin, toujours rester dans le personnage jusqu'au dernier moment. Jusqu'au moment où les gens peuvent plus nous voir, et puis ensuite relâcher l'attention. C'est très important, c'est pas évident, parce que c'est vrai que des fois on est un peu plus fatigué, il y a des soirs où on n'a pas toujours la même énergie, mais c'est quelque chose auquel j'essaye toujours de penser, de soigner ma sortie, peu importe ma performance du soir était extraordinaire ou pas. J'essaye toujours de soigner la sortie.
Il y a une autre chose que vous trouvez un peu stressant, cela se trouve sur la vidéo de l'Opéra de Lyon. On va écouter ce qui vous cause une, disons avant que les représentations commencent, qui vous cause une certaine inquiétude. Vous allez voir de quoi il est question, et puis nous continuons à parler de cet opéra La Flûte Enchantée, et puis peut-être même que cette vidéo nous permettra de faire une transition sur cette date du samedi 6. Je parle depuis le début de l'émission d'une diffusion sur écran géant en région, mais de quoi est-il question? Tout d'abord, nous vous écoutons Jean-Baptiste Mouret parler d'un autre élément que vous entrez et sortie de scène, que vous trouviez stressant, et puis après nous allons parler encore de l'opéra, disons même de la scène de l'Opéra Lyon, puis peut-être que nous allons parler éventuellement aussi d'autres scènes. Vous allez voir. Continuons. Je continue, moi, de mon côté, à ne pas faire fonctionner correctement les choses. Ce n'est pas possible. Nous allons essayer de bien rattraper la chose. Ce que je souhaiterais, c'est vous écouter parler de la scène de l'Opéra de Lyon. Cette scène de l'Opéra de Lyon qui est très particulière, trouviez-vous? On va essayer de réussir ceci, vous allez voir. On va encore entendre, je crois, Luc Devitte nous tenir quelques mots. Et puis après, c'est vous, Jean-Baptiste Mouret, qui allez nous parler de cette scène très particulière de l'Opéra de Lyon.
Pour moi, c'est l'interview.
Normalement, je ne suis jamais stressé, moi.
Je pense... Bah, c'est la première fois que j'ai répété sur la scène d'ici. C'est une grande salle. C'est tout noir. Ça fait un peu comme dans Star Wars, je trouve, avec toutes les étoiles. C'est un peu stressant, mais je pense que c'est quand tu arriveras à la première. Voilà, pour l'instant, le stress n'est pas encore à son maximum et ça monte tout doucement.
Jean-Baptiste Mouret, donc nous vous entendions parler de cette scène de l'Opéra de Lyon. Mmh. Alors, est-ce que le stress a continué? Est-ce que vous l'avez trouvée toujours impressionnante, cette scène de l'Opéra
toujours.
De Lyon?
Oui, c'est vrai qu'à la première, le stress était à son comble. Et puis ensuite, pour les représentations qui ont suivi, on s'est tous détendus et on était tous mieux dans notre peau, mieux avec notre chant. Mais c'est vrai que la première, c'est quand même un opéra très important en France. On a tous plus ou moins, on est tous assez vierges en matière d'expérience opératique dans notre carrière. Donc c'est vrai que c'est quand même une opportunité avec beaucoup de pression en même temps. Donc c'était beaucoup beaucoup d'émotions à dompter, à canaliser. Et puis cette salle qui est vraiment particulière puisqu'elle est extrêmement sombre, on a du mal à distinguer les gens qui sont là. On ne sait pas si c'est plein, on ne sait pas si c'est vide. Je sais pas. C'est étrange et un peu magique en même temps d'être dans cet endroit, je trouve.
Alors vous vous questionnez, vous nous dites à l'instant, vous ne savez pas si c'est plein. Moi, il me semble que l'opéra est assez.
Oui, c'est-à-dire, je veux dire, on sait très bien que c'est
plein.
C'est-à-dire la sensation visuelle.
Bien sûr. Ouais. Mais excusez-moi, je suis très maladroit comme toujours. Je cherche à faire une transition puisque nous avons une deuxième invitée qui va nous parler de cette date très précise. J'en parle depuis le début d'émission. Mais mon Dieu, de quoi est-il question ce samedi 6 juillet? Qu'est-ce que l'Opéra de Lyon va chercher à réaliser pour éventuellement ceux qui n'auraient pas une place à l'Opéra, ou bien pour ceux qui, comme vous, seraient effrayés par ces... Je connais des spectateurs qui également sont tétanisés. Alors je suis peut-être un peu excessif, mais pas tant que ça. Je connais
cette salle,
elle est très sombre. Ouais, c'est de l'opéra italienne, pas vraiment avec les couleurs, les ors et les parures de l'opéra. Nous recevons, comment vous présenter, Sophie, on va dire Sophie tout court, responsable peut-être communication à l'Opéra Lyon, pour nous parler de cette date du samedi 6 juillet. C'est incessamment là, ça arrive d'ici 3 jours. Pour ceux donc qui n'ont pas de place à l'Opéra de Lyon, parce que je crois que ça doit être assez pris, eh bien, comment essayer de voir cet opéra? Puis même pour ceux qui tout simplement ne sont pas à Lyon, pour ceux qui sont à, je crois, avoir une carte sous les yeux, pour ceux qui sont, mettons, à Villefranche-sur-Saône, à Tarare, à Usson en Forêt, à Montélimar, Craie, Grenoble, Ambérieu-en-Bugey. Je parlais de quoi tout à l'heure? Je parlais de Valence. Si Valence y est bien, j'évoquais d'autres noms, je crois. L'Arbrel, non. L'Arbrel,
Paris.
Je me suis trompé. Il n'y a pas l'Arbrel. Paris, c'est vrai, puisque partenariat. Sophie, je vous en prie, c'est à vous que je laisse la parole pour nous parler de cette opération qui s'appelle La Flûte Enchantée sur grand écran. C'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça. On appelle ça, on va dire, dans notre jargon, la vidéotransmission. Donc, c'est la 5e édition en région. La première année, c'était avec Traviata. La seconde, si je ne me trompe pas, c'était Porgy and Bess. Ensuite, on a eu Così fan tutte, l'année passée, Carmen. Donc, l'idée, c'est que l'opéra, une fois par an, sort de ses murs et permet à un plus grand nombre de personnes d'apprécier l'opéra. Des gens qui connaissent déjà peuvent aussi amener leurs proches et faire découvrir de manière, on va dire, totalement gratuite, puisque c'est un élément important. Et puis souvent en plein air, dans les lieux où ça se prête, de faire découvrir l'opéra en famille, entre amis, lors d'une soirée d'été.
Alors, il est quand même indiqué, je trouve ça sur le communiqué de presse, il est tout de même indiqué entrée libre, mais dans la limite des places disponibles. Est-ce que vous pourriez justement nous donner des précisions? Comment réserver ceci? À quelle heure cela commence? Enfin, je ne sais quoi. Est-ce que c'est en direct à 20h précisément, ou des choses comme
Alors,
ça?
Alors, effectivement, le principe, c'est que nous sommes en quasi-direct depuis l'Opéra de Lyon. Donc le spectacle est filmé samedi soir, le spectacle est à 20h dans les murs de l'Opéra de Lyon, mais de manière à laisser le temps à la nuit d'arriver et d'avoir une meilleure qualité d'image sur les écrans, les spectacles sur les sites démarrent à 21h30. Dépendamment des sites, il y a des sites très divers en fait. Place des Terreaux, c'est quand même une place qui peut accueillir environ 8-10 000 personnes, donc on n'a pas les mêmes restrictions de place sur, je pense, un site comme Usson en Forez, où là on est au cinéma municipal et où c'est une jauge un peu réduite. Mais en tout cas, je pense que les gens arrivent souvent relativement tôt, histoire d'être sûr d'être installés comme ils le souhaitent. Et honnêtement, on n'a pas entendu parler les années précédentes de refus de monde, où tout, chacun peut y assister. Hein. C'est très ouvert, c'est tout de même très ouvert comme manifestation.
Les renseignements, on peut en trouver sur les sites internet locaux, je crois, c'est ça, j'aperçois
oui, www.villefranche.net. En appelant le service billetterie de l'Opéra de Lyon, où chaque ville se fait le relais de la manifestation chez elle.
Pourriez-vous nous indiquer, nous donner des chiffres, combien de scènes? Vous avez indiqué tout à l'heure que c'était la cinquième vidéotransmission.
Alors oui, c'est la cinquième vidéotransmission en région Rhône-Alpes. Donc cette année, comme l'année passée, on a 14 sites, dont Lyon. Des sites qui sont très divers au niveau de la taille. Comme je vous le disais, on a des grandes villes comme Grenoble ou Valence, et des villes beaucoup plus petites comme Ambérieu-en-Bugey, Usson-en-Forez. Donc l'idée, c'est aussi de toucher une grande diversité de communes et de lieux de la région. Et c'est la première édition, comme disait Jean-Baptiste, à Paris, sur les berges de Seine, qui ont été récemment inaugurées, là, je crois, il y a une dizaine de jours.
Alors, quel impératif, enfin disons, quels sont les lieux qui sont des lieux ouverts où il n'y a pas trop de restrictions de personnes, et quels sont les lieux plutôt fermés? Vous parliez d'un cinéma qui se trouve à Usson-en-Forêt, et le reste des salles, j'aperçois la halle des marchés à Tarare, je vois le cinéma municipal Les Variétés, donc je suppose quand ce sont des cinémas, c'est limité, à Bellegarde sur Valserine.
Mm-hmm, exactement, et il y a beaucoup de sites quand même qui peuvent jouer le jeu du plein air et où les places sont moins limitées. C'est le cas notamment à Valence, dans un très beau parc. C'est le cas à Villefranche-sur-Saône. Tarare, Halle des Marchés, en fait, c'est un espèce de semi-plein air, puisque c'est un plein air, mais couvert. Mais a priori, la météo est très bonne pour samedi, donc on ne se fait pas de soucis du côté météo.
On parle de vidéotransmission, et pour ce qui est du son, il y a une vaste mise en place sonore, des enceintes qui se promènent un peu partout, c'est ça? Ou est-ce que vous savez-vous déjà comment ces sites fonctionnent, ou bien...
Eh bien, les sites qui ont des cinémas ont une sonorisation cinéma, et chaque site en fait est responsable de son écran et de son système audio. Donc en général, ouais, ça se passe très bien, on a souvent des belles soirées, tout le monde joue le jeu, tous les services municipaux... se donne à fond pour que cet événement soit une réussite. Et là, on est sur des sites qui ont tous participé l'année dernière, et on a toute confiance dans la qualité sonore et visuelle. Et
je suppose que si c'est la cinquième fois, c'est parce que les quatre fois précédentes n'ont sûrement pas été des fours. Je crois que ça a dû très bien marcher.
Exactement, ça a beaucoup de succès.
Voire trop bien marché.
On a de très bons retours, donc... Et ça sera sûrement amené à se répéter les années prochaines.
Très bien. Peut-être un mot de la fin avec Jean-Baptiste également, puis avec vous Sophie aussi. Justement, vous parlez de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont prêts? Il me semble que la prochaine vidéo de transmission doit être déjà prévue, non? Enfin, disons déjà organisée. Est-ce que c'est...
Alors pour l'instant c'est encore une question avec un point d'interrogation. On sait que ça aura lieu samedi 5 juillet. Par contre, quel opéra sera diffusé? C'est encore une question ouverte, puisque les équipes de l'Opéra de Lyon à cette période seront en tournée au Japon. Du coup, on n'aura pas
difficile.
Voilà, on sera pas dans la même configuration que cette année avec une flûte enchantée en début. C'est en fin de saison, début juillet.
Ce ne sera pas indirect.
Je pense que ça sera décidé d'ici peu de temps, mais pour l'instant, on ne peut pas l'annoncer malheureusement.
En tout cas, les renseignements, on les trouve sur le site de l'Opéra. On peut rappeler l'adresse de ce site, c'est opéra-lyon.com. Numéro de téléphone, peut-être que c'est plus pratique d'aller sur Internet, ou numéro de téléphone, y en a-t-il un? Non, je n'en trouve pas vraiment. Je trouve des numéros de l'Opéra, non, c'est pas très net. Mais vous, Jean-Baptiste, pourriez-vous adresser nous donner un numéro de téléphone? Pourriez-vous nous indiquer vos prochains projets? Quels sont-ils? Avec l'Opéra de Lyon aussi?
Avec l'Opéra de Lyon, pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Là, on verra. Et puis, moi, j'ai envie de partir aller en Allemagne ou en Autriche l'année prochaine, puisque c'est une langue... Enfin, j'y vais principalement pour apprendre à parler cette langue que je ne parle pas, et même si je chante dans la flûte enchantée, qui est un opéra en allemand, je parle pas allemand. On a été coaché, on a été préparé, on a des spécialistes qui sont là pour nous apprendre à avoir le meilleur accent possible.
Et ça marche très bien.
Et ça marche.
Pour
ça
y
marche
avoir assisté, j'ai trouvé que tout le monde était germanophone. Je me suis dit, incroyable. Ben, ce sont des Allemands sur scène.
La séance. On vous a menti.
Parce qu'il y a beaucoup de dialogue parlé. Oui, on l'a pas dit. C'est peut-être un petit peu ingrat d'ailleurs dans cet opéra, parce que nous, ce que nous avons dit pendant cette émission, c'était la jolie fantaisie, la belle fantaisie, la magnifique poésie des vidéos de Pierrick Serin. Mmh. Et parfois, donc, il y a des, ces passages parlés qui sont peut-être un peu plus ingrats. Heureusement, Papageno assure toujours le spectacle avec son, son tutu jaune dont Heather Newhouse parle sur le site de l'opéra. Donc, ces passages parlés sont peut-être un peu plus difficiles. Néanmoins, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un très bel accent. Mmh. Et puis, c'est, ça permet de faire une pause parce que sinon, on enchaînerait trop les mélodies et les airs qui sont
c'est
vraiment tous plus magnifiques
c'est
les uns que les autres.
Ça permet un peu de se reposer. C'est, ça casse un peu le rythme de la musique, c'est vrai, mais en même temps, je sais pas. C'est...
Vous, en tout cas, l'Angleterre, je vous coupe comme ça parce que je souhaite revenir là-dessus. L'Angleterre, c'est terminé. Vous ne souhaitez pas.
L'Angleterre, c'est terminé pour l'instant. C'est vrai que j'ai quand même passé 5 années là-bas. J'ai envie de découvrir de nouveaux horizons, forcément d'apprendre à parler allemand, qui est une langue essentielle dans le monde de l'opéra, puisqu'il y a énormément d'opéras qui ont été créés en allemand et énormément d'opéras en Allemagne, tout simplement. Donc c'est un marché prometteur, pas seulement dans l'opéra. Je pense que c'est bien d'ouvrir une nouvelle porte. Je suis encore jeune, j'ai 25 ans, donc je pense que c'est le moment.
Voilà. Quel enfant. On va vous écouter chanter dans le final de l'acte 1. On en a parlé tout à l'heure, ça n'est pas exactement ce que vous chantez, vous, puisque vous dites, vous m'avez indiqué, c'est plutôt le début du final. Là, on va entendre la fin du final avec des applaudissements. Moi j'y tiens, c'est très beau. On va entendre les chœurs qui chantent la fin de l'acte 1. C'est toujours une production de l'Opéra de Lyon. C'est toujours pour vous inciter, auditeurs, à vous rendre à l'opéra ou alors à vous rendre samedi 6 juillet dans ces différents lieux de région. Les renseignements, les précisions, vous les trouverez sur le blog de Spectaculaire. Moi, il me reste à essayer de bien faire démarrer cet enregistrement cette fois-ci. Et il me reste surtout à remercier Jean-Baptiste Mouret pour sa disponibilité.
C'est nous qui vous remercions.
Merci beaucoup. Merci également, Sophie.
Merci à vous.
Et puis, nous écoutons ce final de l'acte 1 et nous continuons. Il nous reste encore quelques petites minutes sur Radio Canu avant le blues des Canus qui commence juste après. Nous écoutions une production de l'Opéra de Lyon et nous allons faire une transition. Je remercie Jean-Baptiste pour cette transition, ça me semble très bien. Il parlait tout à l'heure d'un aspect Star Wars sur la scène de l'Opéra de Lyon. Donc ce qu'on pourrait écouter, c'est un titre qui va ressembler à l'univers de Star Wars. Écoutons I Am qui sera sur la scène de l'Opéra. Qu'est-ce que je raconte moi sur la scène des Nuits de Fourvière, ce sera toujours au mois de juillet, ce sera à la fin du mois de juillet. Nous écoutons l'Empire, nous écoutons le côté obscur et puis nous continuons de quelques minutes. J'aperçois déjà Pascal pour le blues des Canus qui est présent dans les studios. Alors on écoute cette transition et nous continuons pour les dernières minutes de cette émission.
L'escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Débarque et éteint le sang pour voir la puissance.
force de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui, tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte, je balaye ces petits ivres, comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qu'ils se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion des bas-fonds du pays en action, l'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule d'un rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne sens-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'hôte dans la noire, sans la plus pure de l'empereur, et arbore les couleurs du côté obscur. Le rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement de Mike Jadon. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée dans ta mère. Un pilote de 50 ans que ça me laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille. Je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite tenter de noir. C'est sans espoir, la mutation s'amorce. La nature que tu obtures, le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ce nid de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom de forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les hanches. Le fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes, renverse les crédos qui lui semble erroné, brise les traîtres de la tête au péroné. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Bienvenue au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc ou sous une armure du soldat le plus dur de l'empire du côté obscur.
Nous écoutions, j'ai même achevé ceci, nous écoutions le côté obscur de I Am, et transition, enfin du moins même pas de transition, écoutons ces quelques jolies notes. De quoi s'agit-il? C'est la 18e variation dans la Rhapsodie sur un thème de Paganini, c'est de Rachmaninov. C'était des concerts qui avaient lieu la semaine dernière, de très beaux concerts. J'ai assisté à plusieurs spectacles la semaine dernière et c'était vraiment un bel ensemble. La soirée de John McTiernan à l'Institut Lumière était très, très explosive avec les deux films projetés, Predator et puis Last Action Hero. Et les concerts de Rachmaninov que j'ai vus les jeudis soirs et les samedis soirs de la semaine dernière étaient vraiment très beaux. Olga Kern, magnifique soliste sur scène, était prodigieuse, était pleine de charme. Écoutons cette musique, c'est elle qui jouait au piano. Enfin, là maintenant, ce n'est pas elle que nous écoutons, mais c'était elle qui était là la semaine dernière sur la scène, non pas de l'auditorium, mais à la Bourse du Travail, puisque l'ONL est en délocalisation.
Thank you.
spectaculaire touche à sa fin. Gérald n'était pas là aujourd'hui, il sera peut-être là mercredi prochain, mercredi 10 juillet. Je laisse la place à Pascal pour le Blues des Canuts. J'avais 2-3 annonces à faire et il n'y a plus de spectacle nulle part, c'est relâche, sauf à l'opéra. L'opéra dont nous avons longuement parlé dans cette émission. Allez sur le blog de Spectaculaire pour avoir des précisions sur cette flûte enchantée qui est donnée encore jusqu'à mardi prochain, avec une date spéciale samedi 6, ce sera donné en région. Sinon, il n'y a plus rien à faire à Lyon, si ce n'est si. Il y a quand même des expositions à voir, Musée africain, La Guillotière, La Petite Afrique, et puis l'Institut Lumière, il y a une exposition Silencio. Beaucoup d'expositions à voir, c'est très bien, ça fait un peu de photos, un peu de pas forcément des spectacles sans arrêt avec plein d'images et plein de sons. L'émission touche à sa fin, il est bientôt 15h, place au Blues des Canuts, restez à l'écoute des programmes de Radio Canuts, vous avez raison, c'est très bien.